Bonjour pour ce 25e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone au Burkina Faso vendredi dernier Basile Guissou, directeur de recherche en sociologie politique, ancien ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Thomas Sankara.
Le Burkina fait à peu près deux grandes villes, la capitale Ouagadougou, la capitale qu'on appelle capitale économique, qui est la deuxième ville, Bobo-Dioulasso. Ce sont les deux villes qui sont les plus touchées. Par contre, vous avez à peu près une dizaine de villes moyennes au Burkina qui, jusqu'ici, ne sont pas très en danger. Il y a deux ou trois qui sont proches de mines industrielles, les mines d'or, où il y a eu un cas, deux cas comme ça. Sinon, principalement, c'est la capitale et la deuxième ville, Bobo-Dioulasso.
Je suis allé consulter la carte mondiale du Covid-19. Les chiffres qui sont annoncés, c'est actuellement au Burkina 546 personnes confirmées.
C'est ça.
257 personnes guéries.
Oui.
32 décès.
Voilà.
C'est ce qui est déclaré, mais est-ce qu'on peut supposer que d'autres personnes seraient atteintes ou décédées et qui n'auraient pas été comptabilisées?
Je pense que ces chiffres sont plus proches de la réalité parce que, comme je vous disais, en dehors des villes, des petites villes qui ont des mines où il y a des expatriés qui vont, qui viennent, qui voyagent, prenez en compte le fait que cette maladie est rentrée dans notre pays par l'aéroport. Voilà.
Le premier cas, c'était donc un couple en provenance de Mulhouse.
De Mulhouse, oui.
Et puis après, il y a eu un ressortissant japonais.
Voilà. Il y a eu des ministres qui ont voyagé.
Comment on explique ces nombres-là?
Non, mais écoutez, à partir du moment où c'est rentré par l'aéroport, et comme vous savez que c'est des personnes qui ont eu le temps de saluer, de rendre visite, de se faire rendre visite, etc., il était très difficile de contenir l'espace dans lequel il fallait enquêter pour éventuellement détecter des contaminés. Et les gens, spontanément, ne sont pas préparés à se présenter pour dire qu'ils ont des symptômes parce qu'il n'y a pas de précédent. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on n'a pas eu le temps de voir venir. Voilà. C'était une situation de fait accompli et il fallait courir après les événements, quoi. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas possible de prendre la juste mesure des contacts pris par un couple qui, par définition, était un couple public, qui rend des visites, qui reçoit des visites et qui s'est déplacé en toute liberté dans la ville. Voilà. C'est pas facile. La traçabilité n'est pas évidente dans ces cas-là. Donc, moi, je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas être tenus pour responsables du fait qu'on n'a pas pu contenir rapidement un cercle assez restreint dans lequel on pouvait contenir le mal. C'est ça.
Vous pouvez nous indiquer le dispositif qui, dans ces cas-là, est mis en place?
Bon, écoutez, voilà, nous avons malheureusement notre tissu économique est majoritairement, sinon principalement, constitué par le secteur informel qui vit au jour le jour de ses activités de petit commerce. Et imposer à ce public-là une discipline, une rigueur de comportement n'est pas facile. À l'heure où on est, les marchés sont fermés, les débits de boissons sont fermés, les restaurants sont fermés, mais c'est difficile à vivre pour la majorité de la population. À partir du 27, ce qui vient là, du 27 avril, le port du masque sera obligatoire pour tout le monde. Je pense que c'est une mesure qui, dans son application, nous permettra de voir jusqu'à quel point une discipline collective a pu s'instaurer depuis un mois et quelques.
Ce qui est préconisé, c'est le confinement, mais il n'est pas obligatoire.
Pour le moment, non. Mais les villes sont interdites de sortir. Il y a au moins 7 ou 8 villes qui sont qui sont interdits de sortie.
Les frontières sont fermées. Oui.
Les frontières internationales sont fermées, oui.
Les frontières et puis la circulation, c'est très très contrôlé.
Entre les villes, oui. Moi, par exemple, je peux aller dans mon village. Voilà. On ne peut pas sortir de Ouaga, on ne peut pas rentrer dans Ouaga sans autorisation spéciale.
Je pense que c'est un peu comparable comme chez nous.
Oui, mais chez nous, il y a tellement de pistes cyclables et de deux roues, de la bicyclette à la mobylette jusqu'au tricycle. Donc, les gens, ils fendent la brousse, comme on dit, quoi. En tout cas, cette mesure-là n'est pas très, très, très bien respectée. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être la protection par le masque à partir du 27 avril qui nous permettra de mesurer un peu le niveau de discipline collective qu'on aurait pu instaurer.
Les lieux de rassemblement sont évidemment fermés.
Là, c'est relativement bien suivi quand même.
Les églises, les mosquées.
Oui, non. Là, les communautés religieuses sont entièrement engagées dans l'action. Les autorités religieuses coutumières sont entièrement engagées. Et à la télévision, dans les radios, il y a des messages que les leaders religieux font passer.
Et comment sont perçus auprès de la population ces messages ?
Plutôt bien. Parce que quand même, il y a une frayeur qui est là, hein, c'est une réalité.
Est-ce que l'épisode d'Ebola joue aussi ?
C'est un héritage aussi, hein. Je pense que ça n'a pas beaucoup sévi au Burkina. Mais des mesures avaient été prises et une bonne publicité avait été faite pour préparer les esprits à faire face. Donc, je crois que c'était une préparation quand même qui sert aujourd'hui. C'est moins que dans les pays où Ebola a sévi, comme la Guinée ou le Libéria et autres, mais quand même, c'est une chaude alerte. Voilà.
On doit considérer les situations des personnes qui sont obligées de travailler au jour le jour pour subsister et puis pour faire vivre leur famille.
C'est le principal problème qui est posé à l'heure actuelle, je crois. J'ai lu le ministre des Finances ce matin dans les journaux qui disait qu'ils sont obligés d'envisager éventuellement, qu'est-ce qu'il disait là, pratiquement d'envoyer de l'argent aux plus démunis, quoi, des liquidités. Voilà. Un peu comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Parce que là, effectivement, c'est une catégorie qui est inaccessible autrement par l'État. Et ça ne peut pas durer, on ne peut pas les maintenir dans cette précarité-là plus longtemps que plus qu'il ne le faut, hein, sinon ils vont éclater. Hein. On ne peut pas contenir ça longtemps.
Et ça représente combien de personnes ?
Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que mon pays ne vit que grâce au secteur informel. Voilà. Le secteur informel, je l'évalue à peu près à 75% de la vie économique du pays. Et ça occupe rien que le secteur agricole. Vous avez 80% de la population qui vit au village, qui vit de l'agriculture.
Avec des échanges de monnaie ou c'est des trocs aussi ?
Non, c'est la monnaie. On est monétarisé, hein, vous savez, depuis le...
Je sais, mais on a des systèmes de trocs bien monétarisés aussi.
Bah, nous, aujourd'hui, je pense que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La monnaie est partout. Ouais, et en plus de ça, il y a le système le e-banking là, qui marche très bien. Les gens utilisent les portables, sont partout, tout le monde en a. Et on envoie de l'argent par le téléphone portable. Je pense que c'est la forme la plus développée à l'heure actuelle dans les échanges, même le commerce. Parce que même la salade dans la rue, on l'achetait avec le téléphone portable. Hein.
La mesure est pertinente.
Oui, même les gardiennages des véhicules, des mobylettes et des vélos dans les lieux publics. Les marchés, les dispensaires, les stades, etc. Combien, je ne sais pas moi, 100 francs ou 200 francs CFA, on envoie ça par le portable.
Il y a des mesures qui sont liées, des mesures d'hygiène, il faut se laver les mains pour éviter de transmettre ce virus, mais quand on manque d'eau, c'est un peu compliqué, difficile.
Écoutez, à l'heure où je vous parle, toutes les bornes fontaines dans les villes et les quartiers populaires fournissent de l'eau gratuitement et les fontainiers sont pris en charge par l'État. Ça vous dit qu'on n'achète pas de l'eau aujourd'hui au Burkina.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non, ce n'était pas le cas. C'est des mesures qui sont prises qui tiennent compte du contexte. Sinon, vous avez les 200 litres à peu près à 1 euro. Le fût de 200 litres faisait à peu près 700, 500, 700, 750 francs CFA, à peu près 1 euro quoi, en moyenne. Aujourd'hui, c'est.
Mais par rapport au salaire de la majorité des personnes, ça correspond à leur salaire journalier, 1 dollar.
Non,
Non,
plus.
c'est plus.
Non, le salaire journalier est plus. Pour les, je prends les journaliers, les ouvriers, c'est entre 1000 et 1500 francs, ça fait quand même presque 2 euros,
Enfin,
hein.
c'est quand même la moitié de son salaire journalier pour l'eau avant, quoi.
Oui, mais personne ne consomme 200 litres par jour.
Oui, j'entends bien, mais quand même.
Mais ils n'ont pas des piscines, hein. C'est pas des.
C'est bien de se moquer un petit peu de moi, c'est super.
Non, mais écoutez, c'est mon contexte qui est comme ça, hein. Ici, c'est pas. On cherche l'eau, c'est pour boire et se laver les mains et puis manger et préparer à manger, hein. Il n'y a pas de jardin arrosé, il n'y a pas de gazon. Voilà. Non, mais je crois que l'un dans l'autre, si les mesures que le gouvernement préconise sont respectées, sont correctement appliquées surtout, on peut continuer quand même. Je pense que ce n'est pas au-dessus de nos capacités.
En ce qui concerne le télétravail, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont recours?
Écoutez, la fonction publique et le privé au Burkina Faso ne font même pas 300 000 personnes sur 20 millions. Alors, donc vous comprenez que le télétravail, ça ne concerne que peut-être 200 000 personnes, parce que les chauffeurs n'ont pas besoin de télétravail, hein. Les plus nombreux travailleurs de la fonction publique, ce n'est pas comme le disent les Ivoiriens, les en haut des en haut, hein, c'est les en bas des en bas.
Il n'y a pas de problème au niveau équipement informatique, réseau informatique.
Non, 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 non. La couverture fibre optique au Burkina, c'est encore, c'est les happy few. C'est une infime minorité qui peut s'offrir un ordinateur.
Pour le moment, vous n'êtes pas alarmiste.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que si les fonctionnaires sont sous contrôle et que les villes, les deux grandes villes et les quelques villes moyennes sont correctement encadrées, ça peut aller, je pense. Pour les campagnes, il y a quand même 9 000 villages au Burkina Faso qui sont, je crois, quand même éloignés de ces centres de diffusion du virus, hein.
Mais en termes de pourcentage, les deux principales villes représentent combien?
Oh, écoutez, le Burkina fait 20 millions. Je pense que les deux villes réunies ne font pas 4 millions.
Au niveau équipement hospitalier, là pour l'instant, les hôpitaux sont en capacité de traiter dans de bonnes conditions les malades.
Oui, nous avons à peu près, on a 13 régions où il y a 13 formations de 13 hôpitaux régionaux, à peu près complets. Les chefs-lieux de région, il y en a 13. Quand on descend plus bas, il y a 45 provinces. Bon, bien sûr, à ce niveau, ce n'est pas des hôpitaux, c'est beaucoup plus des centres de santé qui se réfèrent aux hôpitaux régionaux quand ça dépasse leurs compétences. On ne peut pas dire que la couverture elle est idéale, quoi. Au-delà de la province, ça devient plus problématique. Il y a des dispensaires dans les communes. Les communes, ça fait à peu près 350 à 370 communes urbaines et rurales. Et ça s'arrête là, parce qu'au niveau villageois, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire.
Donc on comprend la nécessité d'isoler les villes.
Absolument, absolument. C'est de là-bas que tout vient, hein. Comme je vous dis, c'est par les aéroports que le mal est rentré. Et nous espérons que le mal repartira par les aéroports.
Vous serez enterré sur place, c'est pas mal non plus, parce que c'est pas la peine de le refiler aux autres.
Toute façon, il est déjà là-bas. Il est déjà partout.
Et votre regard sur ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, en Chine, en France?
C'est une école pour tout le monde. Comme le dirait la Bible, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, regardent. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de développés, de sous-développés, de pauvres, de riches. C'est un mal qui sème la terreur partout.
Vous formulez des attentes particulières par rapport à l'aide internationale?
Je ne crois pas à l'aide. Je suis un ancien ministre de Thomas Sankara et je pense comme lui. L'Afrique n'a besoin de personne ni de rien. L'Afrique ne souffre que de ses propres complexes. Le fait d'avoir été habitué à attendre l'aide. L'aide, ça tue. L'aide est mortelle. Même les dettes Je pense que l'Afrique ne doit rien à personne, mais tout le reste du monde doit à l'Afrique. Et il faut que cela soit entendu partout. Moi, je ne crois pas à l'aide, je n'en veux pas.
L'annulation des créances non plus.
Ça ne me dit rien du tout, c'est du cinéma. On se gratte pour se faire pour rire. Je ne vois pas quelle dette l'Afrique doit payer pour qu'on lui concède des dettes. Écoutez, on a fait 4 siècles de déportation. C'est des centaines de millions de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont été amenés aux Amériques pour produire du coton. 70% de ceux qui meurent actuellement en Amérique, c'est des Noirs.
Je pense en ce moment aussi à des attaques meurtrières que subissent les populations du centre et du nord.
On affronte les deux. On a les deux en face. Ça n'a pas cessé. Il n'y a pas 3 jours encore, il y a eu, je crois, cinq militaires qui ont été trucidés. Donc, nous avons coronavirus et puis les djihadistes qui ont apparemment des parrains locaux, selon toute vraisemblance.
Il y a des complicités.
Absolument. C'est l'évidence même, parce que quoi qu'on dise, on ne franchit pas des frontières, faire des exactions et repartir le fusil sur l'épaule sans complicité interne.
Vous pensez à des personnes ou des groupes précisément?
Les deux, ça ne ment pas, c'est parce que c'est des réseaux. On ne peut pas les identifier. C'est des réseaux. C'est des réseaux qui n'ont pas, qui ont 20, 30 ans, 30 ans, 20 ans de vie, hein. Ça ne s'est pas monté hier. Hein.
Et qu'est-ce qui motivera les allégeances?
Écoutez, l'appât du gain, hein, c'est toujours l'argent. Vous n'ignorez pas qu'il y a plus de 20 ans le trafic de whisky, de cigarettes dans le Sahara, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas de la drogue et des médicaments prohibés, tout ce qui s'ensuit. Ça fait 25-30 ans que ça circule, ça.
Et c'est très difficile à juguler.
Ben justement, c'est parce que c'est un mélange hétéroclite de briques et de brocs. Il y a du tout là-dedans.
Puis je pensais aussi à un autre fléau. Le paludisme.
Le paludisme n'est pas loin d'être sous contrôle. Hein. Moi, je suis un chercheur. Je sais que mon institut, l'institut dans lequel j'ai travaillé pendant 35 ans, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, a eu des avancées quand même. On est toujours en train de travailler sur un vaccin contre le palud. On a un centre de traitement au moins qui travaille avec au moins 10 ans d'expérience. Sans oublier qu'il y a l'artémisine qui est cultivée de plus en plus au Burkina Faso pour faire face à ce problème-là, au palud. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que le palud soit hors de notre capacité de contrôle.
Mais c'est quand même meurtrier, c'est ce que je veux dire.
Oui, ça, c'était. Oui, effectivement, jusqu'ici, c'est quand même 1 million de morts par an. Hein. Mais les statistiques montrent vraiment qu'il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup d'avancées dans la lutte contre le paludisme. Et actuellement, je sais qu'il y a un candidat vaccin qui est dans le circuit.
Et je suppose que pour le Covid-19, les chercheurs, s'activent aussi.
Oui, nous sommes dans la chloroquine, là, qui était produite d'abord au Burkina, ici même, par toujours le Centre national de la recherche scientifique avait déjà un appareillage qui lui permettait de produire de la quinine. Ils ont été relancés il y a quelques semaines, là, 2 ou 3 semaines. Et je crois qu'ils travaillent en relation avec Marseille. Donc, moi, je ne désespère pas. Je pense que si la collaboration se fait de façon correcte, on n'est pas loin de pouvoir trouver une issue heureuse. L'espoir est permis, hein, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de quoi paniquer par rapport à ce qui se fait, hein. Je pense il y a quand même une réaction plutôt positive par rapport à mise en marche d'une réplique comme il se doit. C'est vrai, nous n'avons pas l'équipement qu'on peut retrouver en Europe, parce que nous ne sommes pas l'Europe, mais nous pouvons faire avec ce qu'on a ici.
C'est votre tempérament optimiste qui affirme ça.
Non, mais écoutez, c'est les mêmes cerveaux qui travaillent partout, hein.
Oui, mais il y a des pessimistes et des optimistes.
Bon, moi, je ne vois pas pourquoi je vais être pessimiste dans la mesure où je ne suis pas un partisan du suicide. Je me dis que vivre, c'est lutter. Je pense, comme votre ambassadeur honoraire, je ne sais pas comment il s'appelle, qui me dit, s'indigner, indignez-vous. S'indigner, c'est agir.
C'est un moment où on réfléchit, hein, tous ensemble.
On en a besoin parce que je pense que ça va dans ça. Ça allait trop dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est un rappel à l'ordre mondial, généralisé. Aujourd'hui, on a pratiquement. C'est la même dictée pour tout le monde.
Et vous pensez que ça va bousculer l'ordre du monde?
L'humanité ne se pose que des questions qu'elle peut résoudre, hein. C'est tout. Et quand la question est là, c'est que la réponse est là. La solution est là. Maintenant, je sais que les intérêts sont les intérêts. Le monde a été construit à partir de 1945 dans un ordre précis, et c'est cet ordre qui est remis en cause fondamentalement. Et les bénéficiaires ne vont pas facilement lâcher prise. La preuve, c'est le traitement de la fameuse dette, qui pour moi n'a pas de raison d'être. On ne devrait même pas parler de dette, surtout concernant l'Afrique. Malheureusement, comme le dirait un philosophe béninois de mes amis, l'Afrique a mal dans sa tête, et c'est dans la tête qu'il faut la traiter.
En côtoyant jeune vos pairs en politique, vous avez reçu une bonne formation.
Ben écoutez, moi je suis un ancien vice-président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. J'ai fait 7 ans à Paris, et c'est là-bas que j'ai fait mon école. Malheureusement, c'est l'élite politique africaine qui ne veut pas changer son fusil d'épaule. Voilà, des enfants gâtés de la coloniale. On veut aller au ciel, mais on ne veut pas mourir.
Si vous avez envie de développer.
Qu'est-ce qui, selon vous, peut manquer à l'Afrique aujourd'hui pour jouer sa partition dans le concert des nations? Quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Rien. Je dis toujours qu'il n'y a pas une école, une université ou un centre de recherche de haut niveau dans le monde entier dans lequel un Africain n'est pas passé. Il n'y en a pas. Vous prenez toutes les grandes écoles françaises. Les Africains ont passé partout. Mais je constate qu'il y a autant de. Il y a plus de médecins nigériens aux États-Unis qu'au Nigeria. Il y a plus de médecins ghanéens aux États-Unis qu'au Ghana. Et c'est pareil pour l'Afrique, pour le Bénin, pour l'Afrique francophone. Il y a quelque chose qui ne va pas. On sait très bien qu'on a besoin de médecins.
Et vous, vous êtes rentré après vos études?
Moi, je suis un patriote, je suis un révolutionnaire. Je ne suis qu'au service de mon peuple. Ni mon père, ni ma mère n'a payé mes études. C'est mon pays qui a payé mes études. Donc j'ai une dette envers les miens. C'est ni plus ni moins, c'est tout.
Oui, et puis il y avait une alternative possible et vous pouviez rejoindre un groupe dans lequel vous partagiez les idéaux.
Ben oui, cet idéal, on l'a forgé en étant étudiant, hein. C'est pas une fois les études terminées qu'on l'a fait, hein. On a commencé à faire le militantisme sur les bancs et dans les amphithéâtres, sur tout le continent africain, en France et en Europe. Les étudiants burkinabés étaient connus pour ça, hein, pour leur engagement politique et patriotique. Les Thomas Sankara, ce n'est pas la génération spontanée, hein, ça a été forgé dans la pratique, l'expérience. Jusqu'à nos jours, le Burkina ne manque pas de fils valides, capables de réfléchir par eux-mêmes et de se projeter dans un avenir meilleur. C'est parfaitement faisable, c'est dans les cordes. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre.
Qu'est-ce qui poussait à aller achever ses études aux États-Unis ou en France ou en Europe?
On n'a pas débouché localement. Quand moi, je faisais ma licence à Ouagadougou, il n'y avait pas d'université. C'était un centre d'enseignement supérieur. Il me fallait faire un doctorat pour pouvoir enseigner ou faire de la recherche, donc il fallait que j'aille en France pour le faire. C'est tout.
Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Non, aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Il y a quand même, le Burkina a fait à peu près une bonne dizaine d'universités.
Ce qu'il faut conserver, ce sont les échanges entre les chercheurs et les universités.
Ça ne se fait pas en vase clos, hein. La recherche, par définition, c'est des réseaux, c'est ouvert. C'est pas pour rien que, je crois que c'est la semaine dernière, non? Il y a déjà eu un vol américano-russe qui est parti. Je crois que c'est un des rares domaines où la coopération internationale marche relativement bien.
Oui, quand on veut partager ces données.
Voilà. Nous avons reçu 10 experts chinois hier. Ou c'est 20, là. 20, 20, ouais. Ils sont venus pour partager leur expérience sur le
Ils
COVID-19.
vont rester un moment, c'est un court séjour,
2 semaines.
2 semaines.
Ce n'est pas mal, hein.
Merci à Basile Guissou, directeur de recherche en sociologie politique, pour sa libre participation à ce 25e numéro de Confinez-vous à nous.
On a refait le monde un peu, ouais. Ça fait du bien. Allez, bonne soirée, merci beaucoup.